Chapitre 3. Eh bien, m'écriai-je en sautant de mon lit, ça ne m'étonne pas. Vous n'avez jamais cru à sa mort, me demanda Rouletabille, avec une émotion telle que je ne pouvais pas me l'expliquer, malgré l'horreur qui se dégageait de la situation, en admettant que nous dussions prendre la lettre les termes du télégramme de M. Darzac. Pas trop, fis-je. Il avait tant besoin de passer pour mort qu'il a pu faire le sacrifice de quelques papiers lors de la catastrophe de la Dordogne. Mais qu'avez-vous, mon ami? Vous paraissez d'une faiblesse extrême. Êtes-vous malade? Rouletabille s'était laissé choir sur une chaise. C'est d'une voix presque tremblante qu'il me confia à son tour qu'il n'avait cru réellement à sa mort qu'une fois la cérémonie du mariage terminée. Il ne pouvait entrer dans l'esprit du jeune homme que Larsan eût laissé s'accomplir l'acte qui donnait Mathilde Stangerson à M. Darzac s'il avait été encore vivant. Larsan n'avait qu'à se montrer pour empêcher le mariage, et si dangereuse qu'eût été pour lui cette manifestation, il n'est point hésité à se livrer, connaissant les sentiments religieux de la fille du professeur Stangerson, et sachant bien qu'elle n'eût jamais consenti à lier son sort à un autre homme, du vivant de son premier mari, se trouva-t-elle même délivrée de celui-ci par la loi humaine. Eh bien, eût-on invoqué auprès d'elle la nullité de ce premier mariage, au regard des lois françaises, il n'en restait pas moins qu'un prêtre avait fait d'elle la femme d'un misérable pour toujours. Et Rouletabille, essuyant la sueur qui coulait de son front, ajoutait « Hélas, rappelez-vous, mon ami, aux yeux de Larsan, le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. » Je mis la main sur la main de Rouletabille. Il avait la fièvre. Je voulus le calmer, mais il ne m'entendait pas. Et voilà qu'il aurait attendu après le mariage, quelques heures après le mariage, pour apparaître, s'écria-t-il. Car pour moi comme pour vous, Sinclair, n'est-ce pas, la dépêche de M. Darzac ne signifiait rien si elle ne voulait pas dire que l'autre est revenu. Évidemment, mais M. Darzac a pu se tromper. Oh, M. Darzac n'est pas un enfant qui a peur. Cependant, il faut espérer. Il faut espérer, n'est-ce pas, Sinclair, qu'il s'est trompé. Non, non, c'est pas possible, ce serait trop affreux. Trop affreux, mon ami Sinclair, ce serait vraiment trop terrible. Je n'avais jamais vu, même au moment des pires événements du Glandier, Rouletabille aussi agité. Il s'était levé maintenant. Il marchait dans la chambre, déplaçait sans raison des objets, puis me regardait en répétant « Mais trop terrible, mais trop terrible !» Je lui fis remarquer qu'il n'était point raisonnable de se mettre dans un état pareil, à la suite d'une dépêche, qui ne pouvait rien et ne pouvait être le résultat de quelque hallucination. Et puis, j'ajoutais que ce n'était pas dans le moment, que nous allions sans doute avoir besoin de tout notre sang-froid, qu'il fallait nous laisser aller à de semblables épouvantes inexcusables chez un garçon de sa trempe. Inexcusable, vraiment, Sinclair, inexcusable. Mais enfin, mon cher, vous me faites peur. Que se passe-t-il? Vous allez le savoir. La situation est horrible. Pourquoi n'est-il pas mort? Et qu'est-ce qui vous dit, après tout, qu'il ne l'est pas? C'est que, voyez-vous, Sinclair, chut, taisez-vous, Sinclair, c'est que, voyez-vous, s'il est vivant, moi, j'aimerais autant être mort. Fou, 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 mais c'est surtout s'il est vivant qu'il faut que vous soyez vivant pour la défendre, elle. Oh, c'est vrai ce que vous venez de dire là, Sinclair. C'est très exactement vrai. Merci, mon ami. Vous avez dit le seul mot qui puisse me faire vivre, elle. Croyez-vous cela? Moi, je ne pensais qu'à moi, là, je ne pensais qu'à moi. Et Rouletabille ricana, et en vérité, j'eus peur à mon tour de le voir ricaner ainsi, et je le priai, en le serrant dans mes bras, de bien vouloir me dire pourquoi il était si effrayé, pourquoi il parlait de sa mort à lui, pourquoi il ricanait ainsi. Mais comme à un ami, comme à ton meilleur ami, Rouletabille, parle, parle, soulage-toi, dis-moi ton secret, dis-le-moi, puisqu'il t'étouffe. Je t'ouvre mon cœur. Rouletabille a posé sa main sur mon épaule. Il m'a regardé jusqu'au fond des yeux, jusqu'au fond de mon cœur, et il m'a dit: Vous allez tout savoir, Sinclair. Vous allez en savoir autant que moi, et vous allez être aussi effrayé que moi, mon ami, parce que vous êtes bon et que je sais que vous m'aimez. Là-dessus, comme je croyais qu'il allait s'attendrir, il se borna à demander l'indicateur des chemins de fer. Nous partons à 1 heure, me dit-il, et il n'y a pas de train direct entre la ville 2 et Paris l'hiver. Nous n'arriverons à Paris qu'à 7 heures, mais nous aurons grandement le temps de faire nos malles et de prendre à la gare de Lyon le train de 9 heures pour Marseille et Menton. Il ne me demandait même pas mon avis. Il m'emmenait à Menton comme il m'avait emmené au Tréport. Il savait bien que dans les conjonctures présentes, je n'avais rien à lui refuser. Du reste, je le voyais dans un état si anormal que, n'eût-il point voulu de moi, je ne l'aurais pas quitté. Et puis nous entrions en pleine vexation et mes affaires du palais me laissaient toute liberté. Nous allons donc à la ville 2, demandai-je. Oui, nous prendrons le train là-bas. Il faut une demi-heure à peine pour aller en voiture du Tréport à eux. Nous serons restés peu de temps dans ce pays, dis-je. Assez, je l'espère, assez, pour ce que je suis venu y chercher, hélas. Je pensais au parfum de la dame en noir. Et je me tus. Ne m'avait-il point dit que j'allais tout savoir? Il m'emmena sur la jetée. Le vent était encore violent et nous dûmes nous abriter derrière le phare. Il resta un instant songeur et ferma les yeux devant la mer. C'est ici, finit-il par dire, que je l'ai vue pour la dernière fois. Il regarda le banc de pierre. Mais nous nous sommes assis là. Elle m'a serré sur son cœur. J'étais un tout petit enfant, j'avais 9 ans. Elle m'a dit de rester là, sur ce banc, et puis elle s'en est allée. Je ne l'ai plus jamais revue. C'était le soir, un doux soir d'été, le soir de la distribution des prix. Oh, elle n'avait pas assisté à la distribution, mais je savais qu'elle viendrait le soir. Un soir plein d'étoiles et si clair que j'ai espéré un instant distinguer son visage. Seulement, elle s'est couverte de son voile en poussant un soupir. Et puis elle est partie. Je ne l'ai plus jamais revue. Et vous, mon ami? Moi? Oui, qu'avez-vous fait? Vous êtes resté longtemps sur ce banc? J'aurais bien voulu, mais le cocher est venu me chercher et je suis rentré. Où? Eh bien, mais au collège. Il y a donc un collège au Tréport? Non pas, mais il y en a un à eux. Je suis rentré au collège 2. Il me fit signe de le suivre. « Nous y allons, dit-il. Comment voulez-vous que je sache ici? Il y a eu trop de tempêtes. » Une demi-heure plus tard, nous étions à eux. Au bas de la rue des Marronniers, notre voiture roula bruyamment sur les pavés durs de la grande place froide et déserte, pendant que le cocher annonçait son arrivée en faisant claquer son fouet à tour de bras, remplissant la petite ville morte de la musique déchirante de sa lanière de cuir. Bientôt, on entendit par-dessus les toits sonner une horloge, celle du collège, me dit Rouletabille, et tout se tut. Le cheval, la voiture, s'étaient immobilisés sur la place. Le cocher avait disparu dans un cabaret. Nous entrâmes dans l'ombre glauque de glacé de la haute ville et de la haute église gothique qui bordait d'un côté la grande place. Rouletabille jeta un coup d'œil sur le château dont on apercevait l'architecture de briques roses couronnée de vastes toits Louis XIII, façade morne qui semble pleurer ses princes exilés. Il considéra mélancolique le bâtiment carré de la mairie qui avançait vers nous la lance hostile de son drapeau sale, les maisons silencieuses, le café de Paris, le café de messieurs les officiers, la boutique du coiffeur, celle du libraire. N'était-ce point là qu'il avait acheté ses premiers livres neufs, payés par la dame en noir? Rien n'est changé. Un vieux chien, sans couleur, sur le seuil du libraire, allongeait son museau paresseux sur ses pattes gelées. « Oh, c'est Cham !» dit Rouletabille. « Oh, je le reconnais bien. C'est Cham, c'est mon bon Cham !» Et il l'appela « Cham, Cham !» Le chien se souleva, tourné vers nous, écoutant cette voix qu'il appelait. Il fit quelques pas difficiles, nous frôla, et retourna s'allonger sur son seuil, indifférent. « Oh !» fit Rouletabille, « c'est lui, mais il ne me reconnaît plus. » Il m'entraîna dans une ruelle qui descendait une pente rapide, pavée de cailloux pointus. Il me tenait par la main et je sentais toujours sa fièvre. Nous nous arrêtâmes bientôt devant un petit temple de style jésuite qui dressait devant nous son porche orné de ses demi-cercles de pierre, sorte de console renversée, qui sont le propre d'une architecture qui n'a contribué en rien à la gloire du XVIIIe siècle. Ayant poussé une petite porte basse, Rouletabille me fit entrer sous une voûte harmonieuse, au fond de laquelle sont agenouillés, sur la pierre de leur tombeau vide, les magnifiques statues de marbre de Catherine de Clèves et de Guise le Balafré. « La chapelle du collège !» me dit tout bas le jeune homme. Il n'y avait personne dans cette chapelle. Nous l'avons traversée en hâte. Sur la gauche, Rouletabille poussa très doucement un tambour qui donnait sur une sorte d'auvent. « Allons, fit-il tout bas, tout va bien. Comme cela, nous serons entrés dans le collège et le concierge ne m'aura pas vu. Certainement, il m'aurait reconnu. Et quel mal y aurait-il à cela ? Mais justement, un homme tête nue, un trousseau de clés à la main, passa devant l'auvent et Rouletabille se rejeta dans l'ombre. « Oh, c'est le père Simon ! Oh, comme il a vieilli ! Il a plus de cheveux ! Attention, c'est l'heure où il va balayer l'étude des petits. Tout le monde est en classe en ce moment. Oh, nous allons être bien libres. Il ne reste plus que la mère Simon dans sa loge, à moins qu'elle soit morte. En tout cas, d'ici, elle ne nous verra pas. Mais attendons. Voilà que le père Simon revient. Mais pourquoi Rouletabille tenait-il tant à se dissimuler? Pourquoi? Ben, décidément, je ne savais rien de ce garçon que je croyais si bien connaître. Chaque heure passée avec lui me réservait toujours une surprise. En attendant que le père Simon nous laissa le champ libre, Rouletabille et moi parvînmes à sortir de l'auvent sans être aperçus et dissimulés dans le coin d'une petite cour jardin derrière des arbrisseaux, nous pouvions maintenant, penchés au-dessus d'une rampe de briques, contempler à l'aise au-dessous de nous les vastes cours et les bâtiments du collège que nous dominions de notre cachette. Rouletabille me serrait le bras comme s'il avait peur de tomber. « Mon Dieu !» fit-il la voix rauque. « Oh, tout cela a été bouleversé. On a démoli la vieille étude où j'ai retrouvé le couteau et le préau dans lequel il avait caché l'argent a été transporté plus loin. Mais les murs de la chapelle n'ont point changé de place, eux. Regardez, Saint-Clair, penchez-vous. Cette porte qui donne dans les sous-sols de la chapelle, c'est la porte de la petite classe. Oh, je l'ai franchie combien de fois, mon Dieu, quand j'étais tout petit enfant. Mais jamais, jamais je ne sortais de là aussi joyeux, même aux heures des plus folles récréations, que lorsque le père Simon venait me chercher pour aller au parloir, où m'attendait la dame en noir. Pourvu, mon Dieu, qu'on n'ait point touché au parloir. » Et il risqua un coup d'œil en arrière, avança la tête. « Non, non, tenez, le voilà, le parloir, à côté de la voûte. C'est la première porte à droite. C'est là qu'elle venait. C'est là. Nous allons y aller tout à l'heure quand le père Simon sera descendu. » Et il claquait des dents. « Mais c'est fou, dit-il, je crois que je vais devenir fou. Qu'est-ce que vous voulez, c'est plus fort que moi, n'est-ce pas ? L'idée que je vais revoir le parloir où elle m'attendait. Je ne vivais que dans l'espoir de la voir, et quand elle était partie, bien que je lui promettasse toujours d'être raisonnable, je tombais dans un si morne désespoir que chaque fois on craignait pour ma santé. On ne parvenait à me faire sortir de ma prostration qu'en m'affirmant que je ne la verrais plus si je tombais malade. Et jusqu'à la visite suivante, je restais avec son souvenir et avec son parfum. N'ayant jamais pu distinctement voir son cher visage, et m'étant enivré jusqu'à en défaillir lorsqu'elle me serrait dans ses bras de son parfum, je vivais moins avec son image qu'avec son odeur. Les jours qui suivaient sa visite, je m'échappais de temps en temps pendant les récréations jusqu'au parloir, et lorsque celui-ci était vide, comme aujourd'hui, j'aspirais, je respirais religieusement cet air qu'elle avait respiré. Je faisais provision de cette atmosphère où elle avait un instant passé, et je sortais, le cœur embaumé. C'était le plus délicat, le plus subtil et certainement le plus naturel, le plus doux parfum du monde. Et j'imaginais bien que je ne le rencontrerais plus jamais, jusqu'à ce jour que je vous ai dit, Saint-Clair. Vous vous rappelez le jour de la réception à l'Élysée? Oui, ce jour-là, mon ami, vous avez rencontré Mathilde Stangerson. C'est vrai, répondit-il d'une voix tremblante. Ah, si j'avais su à ce moment que la fille du professeur Stangerson, lors de son premier mariage en Amérique, avait eu un enfant, un fils, qui aurait dû, s'il était vivant encore, avoir l'âge de Rouletabille, peut-être après le voyage que mon ami aurait fait là-bas et où il avait été certainement renseigné, peut-être eussé-je enfin compris son émotion, sa peine, le trouble étrange qu'il avait à prononcer ce nom de Mathilde Stangerson dans ce collège où il venait autrefois la dame en noir. Il y eut un silence que j'osais troubler. Et vous n'avez jamais su pourquoi la dame en noir n'était plus revenue. « Oh, fit Rouletabille, Je suis sûr que la dame en noir est revenue. Mais c'est moi qui étais parti. Et qui est-ce qui était venu vous chercher? Mais personne. Je m'étais sauvé. Pourquoi? Pour la chercher? Non, non. Pour la fuir. Pour la fuir, vous dis-je, Saint-Clair. Mais elle est revenue, je suis sûr qu'elle est revenue. Elle a dû être désespérée de ne plus vous retrouver. Rouletabille leva les bras vers le ciel, secoua la tête. Est-ce que je sais? Peut-on savoir? Oh, je suis bien malheureux. Chut, mon ami, chut, le père Simon, là. Ah, il s'en va enfin. Allez, vite, au parloir. Nous y fûmes en trois enjambées. C'était une pièce banale, assez grande, avec de pauvres rideaux blancs à ses fenêtres nues. Elle était meublée de 6 chaises de paille alignées contre les murailles, d'une glace au-dessus de la cheminée et d'une pendule. Il faisait là-dedans assez sombre. En entrant dans cette pièce, Rouletabille se découvrit avec un de ces gestes de respect et de recueillement que l'on a à l'ordinaire qu'en pénétrant dans un endroit sacré. Il était devenu très rouge, s'avançait à petits pas, très embarrassé, roulant sa casquette de voyage entre ses doigts. Il se tourna vers moi et tout plus bas encore qu'il ne m'avait parlé dans la chapelle. « Oh, Saint-Clair, le voilà, le parloir. Tenez, touchez mes mains, je brûle. Je suis rouge, n'est-ce pas? J'étais toujours rouge quand j'entrais ici et que je savais que j'allais l'y trouver. Certainement, j'ai couru, je suis essoufflé. J'ai pas pu attendre, n'est-ce pas? Oh, mon cœur qui bat comme quand j'étais tout petit. Tenez, j'arrivais ici. » Là, là, à la porte, et puis je m'arrêtais, tout honteux. Mais j'apercevais son ombre noire dans le coin. Elle me tendait silencieusement les bras, et je m'y jetais, et tout de suite, en nous embrassant, nous pleurions. C'était bon. C'était ma mère, Saint-Clair. Oh, ce n'est pas elle qui me l'a dit, au contraire. Elle me disait que ma mère était morte et qu'elle était une amie de ma mère. Seulement, comme elle me disait aussi de l'appeler maman, et qu'elle pleurait quand je l'embrassais, je sais bien que c'était ma mère. Tenez, elle s'asseyait toujours là, dans ce coin sombre, et elle venait à la tombée du jour, quand on n'avait pas encore allumé dans le parloir. En arrivant, elle déposait sur le rebord de cette fenêtre un gros paquet blanc entouré d'une ficelle rose. C'était une brioche. J'adore les brioches, Saint-Clair. Et Rouletabille ne put plus se retenir. Il s'accouda à la cheminée et il pleura, pleura. Quand il fut un peu soulagé, il releva la tête, me regarda et me sourit tristement. Et puis il s'assit, très là. Je n'avais garde de lui adresser la parole. Je sentais si bien que ce n'était pas avec moi qu'il causait, mais avec ses souvenirs. Je le vis qui sortait de sa poitrine la lettre que je lui avais remise, et les mains tremblantes, il la décacheta. Il la lut lentement. Soudain, sa main retomba et il poussa un gémissement. Lui, tout à l'heure si rouge, était devenu si pâle qu'on lui dit que tout son sang s'était retiré de son cœur. Je fis un mouvement, mais son geste m'interdit de l'approcher. Et puis, il ferma les yeux. J'aurais pu croire qu'il dormait. Je m'éloignai tout doucement alors, sur la pointe des pieds, comme on fait dans la chambre d'un malade. J'allais m'appuyer à une croisée qui donnait sur une petite cour habitée par un grand marronnier. Combien de temps restais-je là à considérer ce marronnier? Est-ce que je sais? Est-ce que je sais seulement ce que nous aurions répondu à quelqu'un de la maison qui fût entré dans le parloir à ce moment? Je songeais obscurément à l'étrange et mystérieuse destinée de mon ami, à cette femme qui était peut-être sa mère et qui peut-être ne l'était pas. Rouletabille était alors si jeune. Il avait tant besoin d'une mère qu'il s'en était peut-être dans son imagination donné une. Rouletabille. Quel autre nom lui connaissions-nous? Joseph Joséphin, c'était sans doute sous ce nom-là qu'il avait fait ses premières études ici. Joseph Joséphin, comme le disait le rédacteur en chef de l'époque, c'est pas un nom, ça! Et maintenant, qu'était-il venu faire ici? Rechercher la trace d'un parfum? Revivre un souvenir, une illusion? Je me retournai au bruit qu'il fit. Il était debout. Il paraissait très calme. Il avait cette figure soudainement rassérénée de ceux qui viennent de remporter une grande victoire intérieure. Sinclair, il faut nous en aller maintenant. Allons-nous-en, mon ami. Allons-nous-en. Et il quitta le parloir sans même regarder derrière lui. Je le suivais. Dans la rue déserte, où nous parvînmes sans avoir été remarqués, je m'arrêtai et lui demandai, anxieux. Eh bien, mon ami, avez-vous retrouvé le parfum de la dame en noir? Certes, il vit bien qu'il y avait dans ma question tout mon cœur plein de l'ardent désir que cette visite au lieu de son enfance lui rendit un peu la paix de l'âme. « Oui, » fit-il, très grave, « oui, Sinclair, je l'ai retrouvé. » Et il me montra la lettre de la fille du professeur Stangerson. Je le regardais hébété, ne comprenant pas, puisque je ne savais pas. Alors il me prit les deux mains et les yeux dans les yeux, il me dit « Je vais vous confier un grand secret, Sinclair, le secret de ma vie et peut-être un jour le secret de ma mort. Quoi qu'il arrive, il mourra avec vous et avec moi. » Mathilde Stangerson avait un enfant, un fils. Ce fils est mort pour tous, excepté pour vous et pour moi. Je reculai, frappé de stupeur, étourdi sous une pareille révélation. Rouletabille, le fils de Mathilde Stangerson. Et puis, tout à coup, j'eus un choc plus violent encore. Mais alors, Rouletabille était le fils de Larsan. Oh, je comprenais maintenant toutes les hésitations de Rouletabille. Je comprenais pourquoi, ce matin, mon ami, dans la prescience de la vérité, disait « Mais pourquoi n'est-il pas mort? S'il est vivant, moi, j'aimerais autant être mort. » Rouletabille lut certainement cette phrase dans mes yeux, et il fit simplement un signe qui voulait dire « Ben, c'est cela, Sinclair. Maintenant, vous y êtes. » Puis il finit sa pensée tout haut. « Silence !» Arrivés à Paris, nous nous sommes séparés pour nous retrouver à la gare. Là, Rouletabille me tendit une nouvelle dépêche qui venait de Valence et qui était signée du professeur Stangerson. En voici le texte. Monsieur Darzac me dit que vous avez quelques jours de congé. Nous serions tous très heureux si vous pouviez venir les passer parmi nous. Nous vous attendons au Rocher Rouge, chez Monsieur Arthur Rance, qui sera enchanté de vous présenter à sa femme. Ma fille sera bien heureuse aussi de vous voir. Elle joint ses instances aux miennes. Amitié. Enfin, alors que nous montions dans le train, le concierge de l'hôtel de Rouletabille se précipitait sur le quai et nous apportait une troisième dépêche. Elle venait, celle-là, de Menton, et elle était signée de Mathilde. Elle ne portait que ces deux mots: « Au secours !» Chapitre 4. En route. Maintenant, je sais tout. Rouletabille vient de me raconter son extraordinaire et aventureuse enfance, et je sais aussi pourquoi il ne redoute rien tant à cette heure que de voir Madame Darzac pénétrer le mystère qui les sépare. Je n'ose plus rien dire, rien conseiller à mon ami. Ah, le malheureux pauvre gosse! Quand il eut lu cette dépêche, au secours, il la porta à ses lèvres, et puis me broyant la main, il dit « Oh, si j'arrive trop tard, je nous vengerai !» Ah, l'énergie froide et sauvage de cela! De temps en temps, un geste trop brusque trahit la passion de son âme, mais en général, il est calme. Comme il est calme maintenant, affreusement. Quelle résolution a-t-il donc prise dans le silence du parloir, alors qu'il se tenait immobile et les yeux clos dans le coin où s'asseyait la dame en noir? Pendant que nous roulons vers Lyon et que Rouletabille rêve étendu, tout habillé sur sa couchette, je vous dirai donc comment et pourquoi l'enfant s'était échappé du collège 2 et ce qu'il en advint. Rouletabille s'était enfui du collège comme un voleur. Il n'est point besoin de chercher d'autres expressions puisqu'il était bien accusé de vol. Voici toute l'affaire. Étant âgé de 9 ans, il était déjà d'une intelligence extraordinairement précoce et porté à la résolution des problèmes les plus bizarres, les plus difficiles. D'une force de logique surprenante, quasi incomparable à cause de sa simplicité et de l'unité sommaire de son raisonnement, il étonnait son professeur de mathématiques par son mode philosophique de travail. Il n'avait jamais pu apprendre sa table de multiplication et comptait sur ses doigts. Il faisait faire ordinairement ses coopérations par ses camarades, comme on donne une vulgaire besogne à accomplir à un domestique. Mais auparavant, il leur avait indiqué la marge du problème. Ignorant encore les principes de l'algèbre classique, il avait inventé, pour son usage personnel, une algèbre faite de signes bizarres, rappelant l'écriture cunéiforme, à l'aide de laquelle il marquait toutes les étapes de son raisonnement mathématique, et il était arrivé ainsi à inscrire des formules générales qu'il était le seul à comprendre. Son professeur le comparait avec orgueil à Pascal, trouvant tout seul en géométrie les premières propositions d'Euclide. Il appliquait à la vie quotidienne cette admirable faculté de raisonner, et cela matériellement et moralement, c'est-à-dire, par exemple, qu'un acte ayant été commis, farce d'écolier, scandale, dénonciation ou rapportage, par un inconnu parmi 10 personnages qu'il connaissait, il dégageait presque fatalement cet inconnu d'après les données morales qu'on lui avait fournies ou que ses observations personnelles lui avaient procurées. Ceci pour le moral. Et pour le matériel, rien ne lui semblait plus simple que de retrouver un objet caché ou perdu ou dérobé. C'est là surtout qu'il déployait une invention merveilleuse, comme si la nature, dans son incroyable équilibre, après avoir créé un père qui était le mauvais génie du vol, avait voulu en faire naître un fils qui eût été le bon génie des volées. Cette étrange aptitude, après lui avoir valu, en plusieurs circonstances amusantes à propos d'objets chipés, quelques succès d'estime dans le personnel du collège, devait un jour lui être fatal. Il découvrit, d'une façon si anormale, une petite somme d'argent qui avait été volée au surveillant général que nul ne voulut croire que cette découverte était uniquement due à son intelligence et à sa perspicacité. Cette hypothèse parut à tous de toute évidence impossible. Et il finit bientôt, grâce à une malheureuse coïncidence d'heure et de lieu, pour passer pour le voleur. On voulut lui faire avouer sa faute. Il s'en défendit avec une énergie indignée qui lui valut une punition sévère. Le principal fit une enquête où Joseph Joséphin fut desservi avec la lâcheté coutumière aux enfants par ses petits camarades. Certains se plaignaient qu'on leur dérobait depuis quelque temps des livres, des objets scolaires, et accusèrent formellement celui qu'ils voyaient déjà accablé. Le fait qu'on ne lui connaissait point de parents et qu'on ignorait d'où il venait, lui fut plus que jamais dans ce petit monde reproché comme un crime. Quand ils parlèrent de lui, ils dirent « le voleur ». Il se débattit et eut le dessous, car il n'était point très fort. Il était désespéré. Il eût voulu mourir. Le principal, qui était le meilleur des hommes, persuadé malheureusement qu'il avait affaire à une petite nature vicieuse, sur laquelle il fallait produire une impression profonde, en lui faisant comprendre toute l'horreur de son acte, imagina de lui dire que s'il n'avouait point le vol, il ne le conserverait point plus longtemps, et qu'il était décidé du reste à écrire le jour même à la personne qui s'intéressait à lui, à Madame Darbel, c'était le nom qu'elle avait donné, pour qu'elle vînt le chercher. L'enfant ne répondit point et se laissa reconduire dans la petite chambre où il avait été confiné. Le lendemain, on l'y chercha en vain. Il s'était enfui. Il avait réfléchi que le principal à qui il avait été confié depuis les plus tendres années de son enfance, si bien qu'il se le rappelait guère d'une façon un peu précise d'autre cadre à sa petite vie que celui du collège, que le principal s'était toujours montré bon pour lui et qu'il ne le traitait de la sorte que parce qu'il croyait à sa culpabilité. Il n'y avait donc point de raison pour que la dame en noir ne crût point elle aussi qu'il avait volé. Passer pour un voleur auprès de la dame en noir, non, plutôt la mort. Et il s'était sauvé en sautant la nuit par-dessus le mur du jardin. Il avait couru tout de suite au canal, dans lequel, en sanglotant, après une pensée suprême donnée à la dame en noir, il s'était jeté. Heureusement, dans son désespoir, le pauvre enfant avait oublié qu'il savait nager. Si j'ai rapporté assez longuement cet incident de l'enfance de Rouletabille, c'est que je suis sûr que dans sa situation actuelle, on en comprendra toute l'importance. Alors qu'il ignorait qu'il était le fils de Larsan, Rouletabille ne pouvait déjà songer à ce triste épisode sans être déchiré par l'idée que la dame en noir avait pu croire en effet qu'il était un voleur. Mais depuis qu'il s'imaginait avoir la certitude, imagination trop fondée, hélas, du lien naturel et légal qui l'unissait à Larsan, quelle douleur, quelle peine infinie devait être la sienne. Sa mère, en apprenant l'événement, avait dû penser que les criminels instincts du père revivraient dans le fils et peut-être, oui, idée plus cruelle que la mort elle-même. S'était-elle réjouie de sa mort? Car il passa pour mort. On retrouva toutes les traces de sa fuite jusqu'au canal et le repêcha son béret. En réalité, comment vécut-il? De la façon la plus singulière. Pour sortir de son bain et bien décidé à fuir le pays, ce gamin que l'on recherchait partout dans le canal et hors du canal imagina une façon bien originale de traverser toute la contrée sans être inquiété. Cependant, il n'avait pas lu la lettre volée. Son génie le servit. Il raisonna comme toujours. Il connaissait, pour les avoir entendus souvent raconter, ces histoires de gamins, petits diables et mauvaises têtes, qui se sauvaient de chez leurs parents pour courir les aventures, se cachant le jour dans les champs et dans les bois, marchant la nuit et vite retrouvés d'ailleurs par les gendarmes, ou forcés de revenir au logis parce qu'ils manquaient bientôt de tout ce qu'ils n'osaient demander à manger au bord de la route qu'ils suivaient et qui était trop surveillée. Notre petit Rouletabille, lui, dormit comme tout le monde la nuit et marcha au grand jour sans se cacher de personne. Seulement, après avoir fait sécher ses vêtements, on commençait à entrer heureusement dans la bonne saison et il n'eut point à souffrir du froid. Il les mit en pièces. Il en fit des loques dont il se couvrit et ostensiblement il mendia, sale et déguenillé. Il tendait la main, affirmant aux passants que s'il ne rapportait point des sous, ses parents le battraient. Et on le prenait pour quelque enfant de bohémien dont il se trouvait toujours quelques voitures dans les environs. Bientôt, ce fut l'époque des fraises des bois. Il en cueillit et en vendit dans les petits paniers de feuillage. Et il m'avoua que, s'il n'avait pas été travaillé par l'affreuse pensée que la dame en noir pouvait croire qu'il était un voleur, il aurait conservé de cette période de sa vie le plus heureux souvenir. Son astuce et son naturel courage le servirent pendant toute cette expédition qui dura des mois. Où allait-il? À Marseille. C'était son idée. Il avait vu dans un livre de géographie des vues du Midi, et jamais il n'avait regardé ses gravures sans pousser un soupir en songeant qu'il ne connaîtrait peut-être jamais ce pays enchanté. À force de vivre comme bohémien, il fit la connaissance d'une petite caravane de Romanichel qui suivait la même route que lui et qui se rendait au Sainte-Marie-de-la-Mer, dans la Croix, pour élire le roi. Il rendit à ces gens quelques services, sut leur plaire et ceux-ci, qui n'ont point coutume de demander aux passants leurs papiers, ne voulurent point en savoir davantage. Ils pensèrent que, victime de mauvais traitements, l'enfant s'était enfui de quelques baraques de saltimbanques, et ils le gardèrent avec eux. Ainsi parvint-il dans le Midi. Aux environs d'Arles, il les quitta et arriva enfin à Marseille. Là, oh, ce fut le paradis, un internel été et le port. Le port était d'une ressource inépuisable pour les petits vauriens de la ville. Ce fut un trésor pour Rouletabille. Il y puisa comme il lui plaisait au fur et à mesure de ses besoins, qui n'étaient point grands. Par exemple, il se fit pêcheur d'oranges. C'est dans le moment qu'il exerçait cette lucrative profession qu'il fit connaissance un beau matin sur les quais d'un journaliste de Paris, M. Gaston Leroux. Et cette rencontre devait avoir par la suite une telle influence sur la destinée de Rouletabille que je ne crois point superflu de donner ici l'article où le rédacteur du Matin a rapporté cette mémorable entrevue. Le petit pêcheur d'orange. Comme le soleil, perçant enfin un ciel de nuées, frappait de ses rayons obliques la robe d'or de Notre-Dame de la Garde, je descendis vers les quais. Les grandes dalles en étaient humides encore, et sous nos pas nous renvoyaient notre image. Le peuple des matelots, des débardeurs et des portefaix s'agitait autour des poutres venues des forêts du nord, actionnait les poulies et tirait sur les câbles. Le vent âpre du large, se glissant sournoisement entre la tour Saint-Jean et le fort Saint-Nicolas, étalait sa rude caresse sur les eaux frissonnantes du vieux port. Flanc à flanc, hanche à hanche, les petites barques se tendaient les bras où s'enroulait la voile latine et dansaient en cadence. À côté d'elles, fatiguées des roulis lointains, lasses d'avoir tangué pendant des jours et des nuits sur des mers inconnues, les lourdes carènes reposaient pesamment, étirant vers les cieux en loques leurs grands mâts immobiles. Mon regard, à travers la forêt aérienne des vergues et des hunes, alla jusqu'à la tour qui atteste qu'il y a 25 siècles, des enfants de l'antique fossé jetèrent l'ancre sur cette côte heureuse et qu'ils venaient rouler des routes liquides d'Ionie. Puis mon attention retourna à la dalle des quais et j'aperçus le petit pêcheur d'orange. Il était debout, cambré dans les lambeaux d'une jaquette que lui battaient les talons, nu-tête et pieds nus, la chevelure blonde et les yeux noirs. Et je crois bien qu'il avait 9 ans. Une corde passée en bretelles sur l'épaule soutenait à son côté un sac de toile. Son poing gauche était campé à la taille et de la main droite, il s'appuyait à un bâton, long 3 fois comme lui, qui se terminait tout là-haut par une petite rondelle de liège. L'enfant était immobile et contemplatif. Alors, je lui demandai ce qu'il faisait là. Il me répondit qu'il était pêcheur d'oranges. Il paraissait très fier d'être pêcheur d'oranges et négligea de me demander des sous comme font les petits vauriens sur les ports. Je lui parlai encore, mais cette fois, il garda le silence, car il considérait attentivement l'eau. Nous étions entre la fine taille du Fides venu de Castellammare et le beaupré d'un trois-mâts goélette venu de Gênes. Plus loin, 2 tartanes, arrivées le matin des Baléares, arrondissaient leur ventre, et je vis que ces ventres étaient pleins d'oranges, car ils en perdaient de toutes parts. Les oranges nageaient sur l'eau. La houle légère les portait vers nous à petites vagues. Mon pêcheur sauta dans un canot, courut à la proue et, armé de son bâton couronné de liège, attendit. Puis il pêcha. Le liège de son bâton amena une orange, 2, 3, 4. Elles disparurent dans le sac. Il empêcha une 5e, sauta sur le quai et ouvrit la pomme d'or. Il plongea son petit museau dans la pelure entrouverte et dévora. « Bon appétit !» lui dis-je. « Monsieur, me répondit-il tout barbouillé de jus vermeil, « moi, je n'aime que les fruits. »« Ben, ça tombe bien, répliquai-je, mais quand il n'y a pas d'orange ?» Je travaille au charbon. Et sa menotte, s'étant engouffrée dans le sac, en sortit avec un énorme morceau de charbon. Le jus de l'orange avait coulé sur la guenille de sa jaquette. Cette guenille avait une poche. Le petit sortit de la poche un mouchoir inénarrable et soigneusement essuya sa guenille. Puis il remit avec orgueil son mouchoir dans sa poche. « Qu'est-ce que fait ton père ?» demandai-je. « Il est pauvre. »« Oui, mais qu'est-ce qu'il fait ?» Le pêcheur d'orange eut un mouvement d'épaule. « Ben, il fait rien, puisqu'il est pauvre. » Mon questionnaire sur sa généalogie n'avait point l'air de lui plaire. Il fila le long du quai, je le suivis. Nous arrivâmes ainsi au gardiennage, petit carré de mer où l'on tient en garde les petits yachts de plaisance, les petits bateaux bien propres d'acajou ciré, les petits navires d'une toilette irréprochable. Mon gamin les considérait d'un œil connaisseur et prenait à cette inspection un vif plaisir. Une embarcation jolie, toute sa voile dehors, elle n'en avait qu'une, accosta. Cette voile était immaculée, gonflait son albe triangle, éclatant dans le radieux soleil. Ben voilà du beau linge, fit mon bonhomme. Là-dessus, il marcha dans une flaque, et sa jaquette, qui décidément le préoccupait au-dessus de toute chose, en fut tout éclaboussée. Quel désastre, il en aurait pleuré. Vite, il sortit son mouchoir et essuya, essuya. Puis il me regarda d'un air suppliant et me dit « Monsieur, je ne suis pas sale par derrière. » Je lui en donnai ma parole d'honneur. Alors, confiant, il remit encore une fois dans son mouchoir dans sa poche. À quelques pas de là, sur le trottoir qui longe les vieilles maisons jaunes ou rouges ou bleues, les maisons dont les fenêtres étaient la lessive, étale la lessive des chiffons multicolores, il y avait, derrière des tables, des marchandes de moules. Les petites tables étaient allées les moules, un couteau rouillé, un flacon de vinaigre. Comme nous arrivions devant les marchandes et que les moules étaient fraîches et tentantes, je dis au petit pêcheur d'oranges, ben, si tu n'aimais pas que les fruits, je pourrais t'offrir une douzaine de moules. » Ses yeux noirs brillaient le désir et nous nous mîmes tous deux à manger des moules. La marchande nous les ouvrait, nous dégustions. Elle voulut nous servir du vinaigre, mais mon compagnon l'arrêta d'un geste impérieux. Il ouvrit son sac, tâtonna et sortit triomphalement un citron. Le citron, ayant voisiné avec le morceau de charbon, était passé au noir. Mais son propriétaire reprit son mouchoir et essuya. Puis il coupa le fruit et m'en offrit la moitié. Mais moi, j'aime les moules pour elles-mêmes et je le remerciai. Après déjeuner, nous revînmes sur le quai. Le pêcheur d'orange me demanda une cigarette, qu'il alluma avec une allumette qu'il avait dans une autre poche de sa jaquette. Alors, la cigarette aux lèvres, lançant vers le ciel des bouffées comme un homme, le bambin se campa sur une dalle au-dessus de l'eau, et le regard fixé tout là-haut sur Notre-Dame de la Garde, il se mit dans la position du gamin célèbre qui fait le plus bel ornement de Bruxelles. Il ne perdait pas un pouce de sa taille, était très fier et semblait vouloir remplir le port. Signé Gaston Leroux. Le surlendemain, Joseph Joséphin retrouvait sur le port M. Gaston Leroux, qui venait à lui le journal à la main. Le gamin lut l'article et le journaliste lui donna une belle pièce de 100 sous. Rouletabille ne fit aucune difficulté pour l'accepter. Il trouva même ce don fort naturel. « Je prends votre pièce, dit-il à Gaston Leroux, à titre de collaborateur. » Avec ses 100 sous, il s'acheta une magnifique boîte à cirer avec tous ses accessoires, et il alla s'installer en face de Brigaillon. Pendant 2 ans, il s'empara des pieds de tous ceux qui venaient manger en cet endroit la traditionnelle bouillabaisse. Entre 2 cirages, il s'asseyait sur sa boîte et lisait. Avec le sentiment de la propriété qu'il avait trouvée au fond de sa boîte, l'ambition lui était venue. Il avait reçu une trop bonne éducation et une trop bonne instruction primaire pour ne point comprendre que s'il n'achevait pas lui-même ce que d'autres avaient si bien commencé, Il se privait de la meilleure chance qui lui restait de se faire une situation dans le monde. Les clients finirent par s'intéresser à ce petit décrotteur qui avait toujours sur sa boîte quelques bouquins d'histoire ou de mathématiques, et un armateur le prit si bien en amitié qu'il lui donna une place de groom dans ses bureaux. Bientôt, Rouletabille fut promu à la dignité de ronde-cuir et put faire quelques économies. À 16 ans, ayant un peu d'argent en poche, il prenait le train pour Paris. Qu'allait-il y faire? Y chercher la dame en noir. Pas un jour il n'avait cessé de penser à la mystérieuse visiteuse du parloir, bien qu'elle ne lui ait jamais dit qu'elle habitât la capitale. Il était persuadé qu'aucune autre ville du monde n'était digne de posséder une dame qui avait un aussi joli parfum. Et puis les petits collégiens eux-mêmes, qui avaient pu apercevoir sa silhouette élégante quand elle se glissait dans le parloir, ne disaient-ils point « Tiens, la Parisienne est venue aujourd'hui !» Il eût été difficile de préciser l'idée de derrière la tête de Rouletabille, et peut-être bien l'ignorait-il lui-même. Son désir était-il simplement de voir la dame en noir, de la regarder passer de loin comme un dévot regarde passer une sainte image? Oserait-il l'aborder? L'affreuse histoire de vol dont l'importance n'avait fait que grandir dans l'imagination de Rouletabille n'était-elle point toujours entre eux comme une barrière qu'il n'avait pas le droit de franchir? Peut-être bien, mais enfin, il voulait la voir, de cela seulement, il était tout à fait sûr. Sitôt débarqué dans la capitale, il alla trouver M. Gaston Leroux, et s'en fit reconnaître, et puis il lui déclara que, ne se sentant aucun goût bien précis pour un métier quelconque, ce qui était tout à fait fâcheux pour une créature ardente au travail comme la sienne, il avait résolu de se faire journaliste et lui demanda tout de go une place de reporter. Gaston Leroux tenta de le détourner d'un aussi funeste projet, mais en vain. C'est alors que de Garlas, il lui dit « Mon petit ami, puisque vous n'avez rien à faire, tâchez donc de trouver le pied gauche de la rue Oberkampf. » Et il le quitta sur ces mots bizarres qui donnèrent à réfléchir au pauvre Rouletabille que ce galapière de journaliste se moquait de lui. Cependant, ayant acheté les feuilles, il sut que le journal L'Époque offrait une honnête récompense à qui lui rapporterait le débris humain qui manquait à la femme coupée en morceaux de la rue Oberkampf. Le reste, nous le connaissons. Dans le mystère de la chambre jaune, j'ai raconté comment Rouletabille se manifesta à cette occasion et de quelle façon aussi lui fut révélée du même coup à lui-même sa singulière profession qui devait être toute sa vie de commencer à raisonner quand les autres avaient fini. J'ai dit par quel hasard il fut conduit un soir à l'Élysée où il sentit passer le parfum de la dame en noir. Il s'aperçut alors qu'il suivait Mademoiselle Stangerson. Qu'ajouterais-je de plus? Des considérations sur les émotions qui ont assailli Rouletabille à propos de ce parfum lors des événements du Glandier, surtout depuis son voyage en Amérique. On les devine, toutes ces hésitations, toutes ces sautes d'humeur, qui donc maintenant ne les comprenaient pas. Les renseignements rapportés par lui de Cincinnati sur l'enfant de celle qui avait été la femme de Jean Roussel avaient dû être suffisamment explicites pour lui donner à penser qu'il pouvait bien être cet enfant-là, pas assez cependant pour qu'il pût en être sûr. Cependant, son instinct le portait si victorieusement vers la fille du professeur qu'il avait toutes les peines du monde parfois à ne point se jeter à son cou, à se retenir de la presser dans ses bras et de lui crier « Mais tu es ma mère! Mais tu es ma mère !» Mais il se sauvait, comme il s'était sauvé de la sacristie, pour ne point laisser échapper, en une seconde d'attendrissement, ce secret qui les brûlait depuis des années. Et puis en vérité, il avait peur. Si elle allait le rejeter, le repousser, l'éloigner avec horreur, lui, le petit voleur du Collège 2, lui, le fils de Roussel Ballmeyer, lui, l'héritier des crimes de Larsan, s'il allait ne plus la revoir, ne plus vivre à ses côtés, ne plus la respirer, elle et son cher parfum, le parfum de la dame en noir. Ah, comme il lui avait fallu combattre à cause de cette vision effroyable, le premier mouvement qui le poussait à lui demander chaque fois qu'il la voyait, « Est-ce toi? Est-ce toi, la dame en noir ?» Quant à elle, elle l'avait aimé tout de suite, mais à cause de sa conduite au glandier, sans doute. Mais si c'était vraiment elle, elle devait le croire mort, lui. Et si ce n'était pas elle? Si par une fatalité qui mettait en déroute et son pur instinct et son raisonnement, si ce n'était pas elle, est-ce qu'il pouvait risquer par son imprudence de lui apprendre qu'il s'était enfui du Collège 2 pour vol? Non, pas ça. Elle lui avait demandé souvent « Où avez-vous été élevé, mon jeune ami? Où avez-vous fait vos premières études ?» Et il avait répondu « À Bordeaux. » Il aurait voulu pouvoir répondre à Pékin. Cependant, ce supplice ne pouvait durer. Si c'était elle, eh bien, il saurait lui dire des choses qui feraient fondre son cœur. Tout valait mieux que de n'être point serré dans ses bras. Ainsi, parfois, se raisonnait-il. Mais il lui fallait être sûr, sûr au-delà de la raison, sûr de se trouver en face de la dame en noir, comme le chien est sûr de respirer son maître. Cette mauvaise figure de rhétorique qui se présentait tout naturellement à son esprit devait le conduire à l'idée de remonter la piste. Elle nous mena dans les conditions que l'on sait au Tréport et à eux. Cependant, j'oserais dire que cette expédition n'aurait peut-être point donné de résultats décisifs aux yeux d'un tiers qui, comme moi, n'était pas influencé par l'odeur. Si la lettre de Mathilde que j'avais remise à Rouletabille dans le train n'était tout à coup venue lui apporter cette assurance que nous allions chercher. Cette lettre, je ne l'ai point lue. C'est un document si sacré aux yeux de mon ami que d'autres yeux ne le verront jamais, mais je sais que les doux reproches qu'elle lui faisait à l'ordinaire, de sa sauvagerie, de son manque de confiance, avait pris sur ce papier un tel accent de douleur que Rouletabille n'aurait pas pu s'y tromper, même si la fille du professeur Stangerson avait oublié de lui confier, dans une phrase finale, où sanglotait tout son désespoir de mère, que l'intérêt qu'elle lui portait venait moins des services rendus que du souvenir qu'elle avait gardé d'un petit garçon, le fils de l'une de ses amies qu'elle avait beaucoup aimé et qui s'était suicidé comme un petit homme à l'âge de 9 ans. Rouletabille lui ressemblait beaucoup.